Seigneur, nous te remercions pour ce culte que tu as préparé, Seigneur, pour que nous puissions te rendre gloire, que nous ayons ce privilège. Amen.
Voilà, une fois de plus, comme chaque semaine, on va partager le pain et la coupe. Et ce qui importe aux yeux du Seigneur, plus, quoique ça ait une grande valeur, que ce que nous allons faire, c'est la façon dont nous allons le faire. Et c'est lui qui nous donne la façon de partager le repas du Seigneur. Dans ce texte que nous connaissons bien, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 23 à 29. On va reprendre ce passage de la parole. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Ce petit morceau de pain que nous allons prendre, manger, symbolise le corps brisé du Seigneur, rompu pour toi et moi. Et le gobelet dans lequel nous allons boire nous rappelle aussi le sang qui a été versé, le sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix, dans l'attente de sa venue. Il symbolise aussi cette nouvelle alliance au prix du sang. Nous répétons cet acte chaque semaine jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Car il va revenir pour chercher et accueillir les siens auprès de lui pour l'éternité. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Nul ne les ravira de ma main. Vous vous rendez compte de ce privilège que chacun de nous qui avons accepté de voir dans le sacrifice du Seigneur la rédemption de tous nos péchés. Et il va aussi juger ceux qui n'auront pas voulu reconnaître en lui l'auteur de leur salut, refusant la grâce qui leur était offerte. En prenant le repas du Seigneur, nous nous souvenons de ses souffrances. Nous rappelons son corps laminé, torturé. On l'a chanté chef couvert de blessures. Nous ne pouvons négliger une telle souffrance en contemplant ce qui nous est dit de lui encore dans Ésaïe 52. On va prendre quelques versets dans Ésaïe 52, on les connaît tous bien encore. Les versets 13 à 15. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Quand on lit ce passage, il a été défiguré, il a été un sujet d'effroi. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il portait sur la croix? Les coups, oui. Les crachats, oui. Mais plus que ça, c'est mon péché qui le défigurait. Il a fallu ce terrible chemin pour qu'il soit glorifié, mais aussi et surtout pour toi et moi, pour être sauvés de l'enfer éternel, privés de sa présence. On imagine ceux qui vont subir cela, privés de la présence du Seigneur, dans les tourments éternels. Et nous, par sa grâce, par son amour pour chacun d'entre nous, parce qu'il a accepté d'être défiguré, parce qu'il a accepté d'être brisé, d'être humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Eh bien, nous sommes maintenant sauvés pour l'éternité. dans sa main jusqu'à la vie éternelle. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Mais quelle grâce et quel privilège nous avons. Et il me demande de m'en souvenir jusqu'à ce qu'il vienne en suivant ses traces. Nous avons un Seigneur couronné de gloire, mais avant d'être assis à la droite du Père, il a fallu qu'il descende au plus bas, se rendant humble et obéissant, nous l'avons dit. Ce qui m'a frappé dans ce passage de 1 Corinthiens, que nous lisons pourtant si souvent, c'est que le Seigneur dit « Faites ceci en mémoire de moi » et par deux fois. Il ne dit pas « Faites ceci en mémoire de ce que j'ai fait » ou de ce que j'ai dit, mais en mémoire de moi. Il me demande de me souvenir du sacrifice de la croix, de sa signification, du sang versé, mais il me demande de me souvenir de lui, de sa personne, de toute son œuvre, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il veut faire encore pour moi et en moi, à condition de prendre ce repas d'une manière digne. Et la manière de prendre le repas du Seigneur dignement, comme il l'indique, ce n'est pas seulement quelques minutes suspendues le dimanche matin, qui sont ô combien importantes, car en prenant le pain et la coupe, nous proclamons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais qu'est-ce que nous proclamons aussi ? La nôtre, la mienne. On va prendre ce passage de Romains 6 au verset 3 jusqu'au verset 8, où c'est un témoignage que nous affirmons que nous sommes, que je suis mort. Romains 6, 3, 8. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. En lisant ce passage, nous voyons que la mort n'est pas une finalité, un but, mais le point de départ qui est nécessaire pour une vie de résurrection. On voudrait bien, nous, je m'en aperçois, vivre de la vie, de l'ancienne vie, sans mourir, mais vivre une vie de résurrection. C'est absolument impossible. Quand on est mort, on est mort. Et quand on est ressuscité, c'est qu'on a été mort. Ça, c'est une définition incontournable. On ne peut pas avoir les deux. Et souvent, je vois quand j'ai été enterré, j'essaie de gratter la terre pour sortir la tête. Mais le Seigneur veut que nous dit de suivre ses traces. Et que nous sommes une même plante avec lui, étant morts avec lui. Et si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui et en lui. Ce que le Seigneur me demande, c'est de marcher en fait tous les jours qui viennent en demeurant en lui. La première de Jean au chapitre 2 au verset 6 nous dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Il me donne la possibilité de le faire. C'est impossible par mes propres moyens, ça c'est clair. Et le seul moyen, c'est de mettre de côté ma propre vie et de saisir la sienne. Il ne peut pas cohabiter avec la vieille nature, ce n'est pas possible. Il faut lui laisser la place. C'est une nécessité absolue. Est-ce que je le veux ? Ça demande que ça. La première de Pierre au chapitre 2 nous dit au verset 21 à 24, je vous le lis, « Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, c'était la fin du verset, afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Notre justice, c'est lui. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Lorsque je vois ça, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace. Je n'ai pas été injurié, pas souvent. Je n'ai pas été maltraité, mais quand on m'égratigne, quelle est ma réaction? Souvent, on sort les griffes, je sors les griffes. Et le Seigneur nous dit de suivre ses traces. Il ne rendait point l'injure, il ne faisait point de menace. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Il a tout accompli d'une manière parfaite pour que je puisse suivre ses traces, pour que je puisse vivre de sa vie. Et en fait, c'est ma façon de me comporter qui montrera si je demeure en Christ, si je l'aime. Et si je l'aime, ben je vais l'attendre. Et si on me demande de me souvenir de lui, c'est que je l'ai connu ou que je le connais. Vous pouvez vous souvenir de quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce n'est pas possible. Se souvenir de lui, en fait, ça comprend, ça veut dire que je l'ai connu, que je le connais, puis si je l'attends, puisqu'il va revenir, eh ben, c'est que j'ai envie de le revoir. Ça implique en fait toute notre vie, toute notre façon de vivre. Si j'attends quelqu'un intensément, eh bien, il va venir, ça c'est sûr. Dans Jean, au chapitre 12, au verset 21, il y a ce passage où il y a des Grecs qui sont venus pour adorer et qui demandent à Philippe, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Si ce désir est réel, quel que soit mon niveau, j'aime pas trop ce terme, dans la connaissance de sa personne, il n'y a aucun doute pour que le Seigneur réponde, et il le fera, il se fera connaître. Voir Jésus, le reconnaître dans toutes mes voies, n'est-ce pas une position de repos ? C'est Proverbe 3 qui nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies ». Je préfère la version d'Harvey où il dit « Connais-le dans toutes tes voies, connais-le ». Apprendre à le connaître, quelles que soient nos circonstances. Mais c'est une position de repos. On sait qu'il est derrière. Y a-t-il une chose qui arrive sans que le Seigneur, que l'Éternel ne l'ait voulu ? C'est un apprentissage. Quand des épreuves sont là, c'est sûr, elles nous accablent. Elles nous mettent par terre, parce que ce sont les épreuves qui nous mettent par terre. Mais qu'est-ce qui va nous tranquilliser, nous affermir, nous donner cette position de repos ? Seigneur, tu l'as voulu, tu as un but, j'y comprends rien. Mais peu importe, tu m'aimes, tu vas me conduire sur ce chemin. Et le but, il va être magnifique. Tu vas me faire grandir en toi. Alors, je veux m'accrocher à toi, je veux demeurer en toi. C'est une façon de prendre le repas dignement. Lorsque je prends ce repas en mémoire de lui, je rappelle ce qu'il a fait pour moi en ravivant, c'est vrai, ce souvenir de son sacrifice affreux. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, maintenant, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Il est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous, pour toi et pour moi. Rappelons-nous que maintenant, nous pouvons lire et dire ce qui nous est dit dans Romains 8, 31 à 34. On va reprendre ces versets ensemble. Romains 8, versets 31 à 34. Une position où nous pouvons être fermes, où nous pouvons être tranquillisés, affermis. Romains 8, 31 à 34. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? Les élus de Dieu, c'est vous tous, c'est nous tous. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors on peut avoir confiance. Vous vous rendez compte de cela ? Il intercède pour nous. Il est vivant. Il nous a été rappelé récemment qu'il y avait trois principes fondamentaux dans la vie du chrétien. Le sang du Christ qui nous purifie de chaque péché, de tout péché, qui nous couvre, qui fait que notre Dieu nous voit juste et qui lève toute condamnation. La croix de Christ, chemin indispensable pour vivre de sa vie nouvelle, de sa vie de résurrection. à ces Grecs dont nous avons parlé tout à l'heure et qui voulaient voir Jésus, quelle a été la réponse du Seigneur? Il n'a pas parlé, il a dit « Venez, viens, venez voir ». Non, il leur a parlé de la mort. Jean 12, versets 23 à 25, c'est une réponse étonnante. Quand on la prend hors de son contexte, oui, ben, mais c'est ce qu'il a répondu à ces gens qui voulaient le voir. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il ne meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. Et vivre de Christ, si Christ est en moi, s'il peut vivre librement en moi, alors il s'exprimera aussi librement, pleinement. Je porterai son nom dignement et je prendrai ce repas dignement. » On va prendre pour terminer ce passage aussi de Éphésiens 3, versets 14 à 21. Éphésiens 3, 14 à 21. C'était la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, donc qu'il nous donne aussi, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seul la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. On a vu le sang, la croix, et on voit le nom du Seigneur Jésus, celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et pensons par la puissance qui agit en nous. Mais cette puissance, elle ne peut s'exprimer que si elle est libre. C'est le chemin. Et prendre le repas du Seigneur, c'est accepter ce chemin. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce qu'il y a des chutes. Nous aurons probablement encore, mais il est là pour nous relever. C'est lui qui nous relève de nos chutes. Cette fois, le juste tombe. Et à chaque fois, il se relève parce qu'il a le sang qui nous remet sur la voie. Parce que notre Seigneur Jésus nous aime et qui nous a sauvés, chacun, pour l'éternité. Alors maintenant, nous pouvons le remercier. Seigneur Jésus, merci de ce que nous pouvons vraiment contempler, que tout est accompli. Il ne manque rien pour que nous puissions maintenant marcher d'une façon nouvelle, en nouveauté de vie. Seigneur, de mettre ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous sommes, en fait, derrière nous. Seigneur, que ce soit une vie de résurrection, Seigneur. Mais avant, il faut que j'accepte d'être mort. Et Seigneur, en prenant ce repas, j'atteste que c'est ma volonté. Seigneur, merci encore de ce que tu nous demandes que de vouloir. Le pouvoir, c'est toi qui as toute la puissance pour accomplir ce que tu as déjà prévu pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci encore de ce que nous pouvons maintenant nous confier pleinement en toi. Seigneur, de ce que nous pouvons te faire confiance, quelles que soient les circonstances. Seigneur, nous savons que tu nous accompagnes sur ce chemin pour que tu puisses réaliser ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Amen.
J'allais ouvrir la Bible dans la Genèse, au chapitre 37. Genèse 37. On va parler aujourd'hui de Joseph. Genèse 37, nous sommes là dans le peuple de Dieu, dans le peuple d'Israël, et c'est Jacob qui est le responsable de ce peuple. Et il nous est dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Et voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femmes de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph, plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Voilà, donc Joseph a 17 ans, très jeune, hein, et puis il est proche de son père, et il rapporte les mauvaises paroles de ses frères, et son père l'aime beaucoup, évidemment, puisque c'est le dernier. Et il y a une position de ses frères, Joseph, au verset 4 et suivant. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. C'est le peuple de Dieu, rappelons-nous. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Voilà le peuple de Dieu à cette époque. Il y a trois mots qui dominent. C'est au verset 4, la haine, au verset 5, la haine, et au verset 8, la haine. Quand on relit ces choses, c'est terrifiant tout de même. Et puis le père, qui n'est pas tout à fait mieux, bien qu'il aime son fils, il le réprimande. Il a eu deux songes, Joseph. Et puis il va les dire, il a 17 ans, avec tout son orgueil de 17 ans. Mais personne ne se demande si ces songes viennent de Dieu. Tout le monde haït Joseph, parce qu'il a quelque chose, parce que son père l'aime, et on voit l'état absolument catastrophique où se trouve le peuple de Dieu à ce moment-là, au mois de Jacob. Et puis, son père, on passera partout en revue, parce qu'il y a beaucoup de choses, on prendra les points principaux, évidemment. Israël va dire à Joseph que ses frères font paître le troupeau, et il l'envoie pour aller voir ses frères s'ils se portent bien. Il trouve un homme qui lui montre la route. Alors, l'homme lui dit, ils sont partis d'ici, j'ai entendu dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. La haine a eu du fruit, ça a été rapide. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une de ses citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous viendrons ce que deviendront ses songes. C'est effrayant, effrayant cette histoire. Et puis, Ruben leur dit au verset 21, Ruben en dit cela, il délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Et il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Et lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Il n'y avait point d'eau, donc ils l'ont jeté dans la citerne, il ne peut pas remonter, il fait chaud, il n'y a pas d'eau, donc il va mourir. Il va mourir de soif. Je n'avais jamais vu cette histoire, enfin l'histoire de Joseph. Et puis alors, presque on pourrait dire pire que ça, au verset 25, ils s'assirent ensuite pour manger. C'est épouvantable cette histoire. C'est le peuple de Dieu. On est là dans le peuple du Seigneur. Alors, ils vont lever les yeux et puis ils voient des chameaux qui arrivent, une caravane d'Ismaélites. Et Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère et notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Et au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 sicles d'argent, ou ismaélites, ça a une grande signification, puisque le prix du Seigneur a été aussi vendu en pièces d'argent, qu'ils l'ont emmené en Égypte. Quelle affaire! Et ensuite, ils vont tuer un bouc avec la tunique pour faire croire à leur père qu'une bête sauvage l'avait dévoré. Et il sera évidemment bien malheureux. Et voilà où on en est. Alors ensuite, il part avec ses Madianites. Et là, ils vont le vendre, eux, en Égypte, au verset 36, à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. C'est la fin de sa vie, de ce garçon de 17 ans, avec sa famille. C'est la mort qu'il a évité très peu et qu'il a vue, c'est la haine de ses frères, et lui qui était fils de prince, il est vendu comme esclave. Voilà l'histoire de Joseph, pour une bonne partie. Et puis, ensuite, on va prendre le chapitre 39, et au chapitre 39, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Mais dans cette catastrophe, où on voit l'angoisse de ce pauvre garçon, verset 2, « L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna, il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Il trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Le Seigneur était là. Il est réduit à l'état d'esclave, mais Dieu est avec lui. » Et il va continuer ce travail. Donc, le maître abandonne au verset 6 aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il avait avec lui d'autres soins que de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Donc, on peut penser qu'il va retrouver une nouvelle situation. Mais une nouvelle épreuve l'attend, puisque dans la suite, la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Donc c'est toute la suite de ce verset 39. Et il refuse. Il dit à cette femme, il n'est pas plus grand que moi, donc son maître dans cette maison, il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Il résiste au mal. Et il est là en affirmant qu'il ne veut pas péché contre Dieu. Cette femme lui tend un traquenard, elle se met à hurler, et son mari arrive, et elle lui dit « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi, et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce qu'on a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là, en prison. Donc les épreuves ne sont loin d'être finies, elles continuent au contraire, et cette fois, il va se retrouver en prison. Et ensuite, eh bien, dans cette prison, l'Éternel sera encore avec Joseph. L'Éternel, le 21, fut avec Joseph, il étendit lui sa bonté et le mit en faveur au chef de la prison. Et Joseph a une nouvelle épreuve. Il est toujours aussi jeune, hein, il a quelques mois de différence, et il se retrouve seul dans la prison, faussement accusé, dans une angoisse profonde, complètement séparé de sa famille qu'il aimait beaucoup pour toujours. Dans cette prison, esclave, dans un peuple qui lui est inconnu. Quelle dure épreuve, quelles dures épreuves au pluriel, ce garçon a dû subir. Et ensuite, on va voir, on va passer un petit peu plus loin, le verset 40. Dans cette prison, il va y avoir deux personnages. Il va y avoir, qui sont aussi en prison, c'est le chef des échansons. Les chansons, c'est celui qui remettait la coupe dans la main de Pharaon. Et le chef des panetiers. Et puis, ils ont un songe. Chacun a un songe, ils ne savent pas l'interpréter. Ils demandent à Joseph d'interpréter le songe. Et lui reçoit la grâce de Dieu pour interpréter, c'était un don qu'il avait de Dieu. Et il dit au chef des échansons, toi tu vas être rétabli dans ta fonction. Et puis il dit au chef des panetiers, toi par contre tu passeras à la mort. En gros, c'est cela qui s'est passé. Et effectivement, le chef des échansons sera rétabli. Mais Joseph lui a demandé quelque chose au verset 14, il lui dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. « Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » C'est un cri de détresse. On imagine ou on n'imagine pas peut-être. Il lui rend un service, il dit « Écoute, tu vas retrouver Pharaon, souviens-toi de moi. » me laisse pas dans cette maison. Il l'implore, il le supplie. Et le chef des chansons est repris, mais une fois qu'il a repris sa place, au verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia, comme les hommes oublient bien sûr leurs promesses. Et la détresse est encore plus grande qui fonde sur ce jeune homme, encore plus grande. Plus personne pour l'aider, oublié de celui qui aurait pu l'aider auprès de Pharaon qui pouvait le sauver. Et le verset 41 nous dit ceci. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Il se tenait près du fleuve. Donc il s'est passé 2 ans lorsque le chef des échansons a retrouvé sa fonction et Joseph restait dans sa prison, dans sa détresse, dans sa solitude. Et on sait que les prisons à l'époque étaient quelque chose de terrible. C'était des cavernes, on ne voyait pas clair, on mangeait à peine. 2 ans, encore 2 ans de plus. Et Joseph n'a certainement plus d'espoir à ce moment-là. C'est fini pour lui. Et il a manifesté sa droiture envers Dieu. Il a refusé le péché. Et Dieu lui a montré qu'il était toujours là. Mais où en sommes-nous maintenant? Et dans ce chapitre 41, il y a à nouveau Pharaon qui a un songe. Et il a ce songe où il y a 7 vaches belles et 7 vaches maigres qui vont annoncer 7 années de prospérité, ensuite 7 années de famine. Et de même, il y a des épis. Alors, des épis, il y a 7 épis gras et 7 épis maigres. Et personne ne sait comment répondre à ce songe. Mais il y en a un qui va répondre à Pharaon pour lui dire, c'est le chef des échansons qui se rappelle et qui lui dit qu'il y avait en prison un jeune hébreu qui savait expliquer les songes. Alors, verset 14 du chapitre 41, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison, il se rasa et changea de vêtements. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'était pas rasé, qu'il avait des vêtements sales, tenus des prisonniers, évidemment. C'était terrible. Et il se rendit vers Pharaon. Et Pharaon, verset 15, dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Quel honneur pour ce jeune garçon, dans la détresse et l'angoisse absolue, de toujours rendre à son Dieu, même dans les épreuves les plus terribles qui lui arrivent. Il n'a pas lâché sa vision et son obéissance à Dieu. Et alors, à ce moment-là, il va se passer une chose, c'est qu'il va nommer Joseph pour qu'il puisse prendre la direction quasiment de l'Égypte pour organiser ce problème des 7 années d'abondance. Alors Joseph va faire construire des greniers, il va avoir des provisions pour pouvoir subvenir pendant les 7 années de famine qui vont arriver. Et c'est ainsi que Joseph, à nouveau, va retrouver non seulement la liberté, mais aussi la faveur de Pharaon. Et il dit au verset 38, « Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, « Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Quelle gloire! Commandement de tout le pays d'Égypte, alors qu'il a passé de telles épreuves tellement, tellement difficiles. Et puis, les frères, cette fois, vont arriver. Au chapitre 42, les frères sont venus chercher des provisions dans ce pays d'Égypte parce que Jacob leur avait dit qu'il y avait des provisions. Mais avant qu'ils arrivent, Joseph a fait une remarque. Au chapitre 41, au verset 50, « Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Anat, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. » Il y a eu une délivrance dans le cœur de Joseph à travers toutes ses épreuves. Il a été délivré et il a retrouvé la sérénité et la paix de Dieu. Je n'avais jamais vu le parcours de Joseph de cette façon. Eh bien, c'est fait. Et alors, à ce moment-là, les frères vont venir. Et évidemment, ils vont retrouver Joseph, bien sûr. Et au verset 16 du chapitre 43, on va assez rapidement, hein, bien sûr. Dès que Joseph fit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Et au chapitre 45, alors ça, cette fois, ça va être la rencontre avec les frères. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et cette phrase est évidemment capitale. Et au verset 15, il embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretenirent avec lui. Il dit à ses frères qu'il avait un but. Il avait un but de tout le mal qu'ils lui ont fait. Bien sûr, nous avons fait un panorama rapide de cette histoire, parce qu'elle est très longue, et de ce parcours de cet homme. Et maintenant, on peut se demander, on peut considérer que la vie de Joseph a été remplie d'épreuves, mais qu'après ces épreuves, il est devenu le deuxième personnage de l'Égypte, ce qui est une victoire extraordinaire, une position inespérée et formidable, unique, et que ses frères et son père vont venir en Égypte pour chercher des vivres à cause de la famine, et qu'ils vont être sauvés de la famine grâce à Joseph, et que Dieu les punit de leur faute. C'est juste, c'est très juste. C'est ce qui est évident, ils ont été rassasiés, ils ont ramené des provisions, ils se sont repentis, bien sûr. Mais on avait dit au départ que nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes en Israël. Et on voit le désastre dans la maison de Dieu. À savoir que Jacob, lui, eh bien, on sait que c'est quelqu'un qui n'était pas à la hauteur, on va dire, de sa fonction pour diriger le peuple, puisqu'il était désappointé. Il avait dit à Pharaon, quand il avait demandé « Combien sont les jours de tes années ?» Il avait dit « Les jours de ma vie errantes, les jours de ma vie errantes ont été peu nombreux et mauvais. » Et malgré les leçons qu'il aura pu voir, et on a vu que Jacob ne pouvait pas diriger la maison de Dieu correctement. Quant à ses frères, qui sont la maison d'Israël, eh bien, leur état spirituel est au plus bas, puisqu'ils n'ont aucune ressemblance à ce que l'Éternel voulait pour sa maison, qui lui est si chère. Ce sont des divisions, des querelles entre eux, des jalousies, de l'envie, la suspicion, les intrigues, la haine violente, c'est extraordinaire, comme on a vu cette haine, et puis finalement, vouloir la mort de leur frère, le meurtre de leur frère. Et ça, on retrouve là l'histoire du Seigneur Jésus, effectivement. C'est pour ça que Joseph est un des types du Seigneur Jésus. Il a subi toutes ces choses, notre Seigneur. Et nous avons vu tout ce qu'il a subi quand on a partagé la Sainte Cène. Il a subi, lui, le meurtre, vraiment. Alors que, bien sûr, pour Joseph, il était destiné à ça, il n'a pas été. Alors, toutes ces choses qui sont dans le cœur des frères, c'est dans le nôtre également. On l'a vu tout à l'heure aussi. On aurait pu faire certainement pareil. On critique ses frères et c'est juste, mais nous aurions pu aussi avoir, parce que c'est le péché, il est dans notre cœur. Et la haine, elle est dans notre cœur. Et ils étaient la terre promise. Et cette terre qui était bénie de Dieu, eh bien, ils la méprisaient. Et on revient sur ce verset 20 du chapitre 45. « Ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car Dieu m'a envoyé vers vous pour vous préserver la vie. » On va voir que ce n'est pas seulement pour vous donner à manger. Et dans Genèse 50, au verset 20, il est écrit, nous connaissons ce verset, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Et c'est ce qu'a fait le Seigneur, bien sûr, pour nous. Alors, que signifie cela? Ça peut signifier profondément, plus profondément que de devoir donner à manger. Bien sûr que oui. Eh bien, que Joseph a reçu de Dieu un esprit de sagesse, de compréhension extraordinaire, pour l'interprétation de différents songes. Il est en avance, il a été envoyé devant ses frères pour leur donner la nourriture, mais pour leur ramener ce qui leur manque, ce qu'ils n'ont plus, la vie profonde du Seigneur en eux. Et c'est pour ça la réalité, en fait, de toute cette vie de sacrifice et d'épreuve incompréhensible pour Joseph. Parce qu'il avait l'esprit du Seigneur, il devenait celui qui allait ramener à son peuple égaré la réalité de la présence de l'Éternel. Il allait ramener ces gens dans le péché à la communion avec Dieu. Et ceci nous ramène à notre époque à nous. L'Église du Seigneur, dans bien des endroits, et aussi dans cet endroit, dans cet état, on va dire, où l'Esprit de Christ n'est plus là, dans cet état souvent déplorable, pas toujours, mais souvent, et l'intention de Dieu, c'est dans ces derniers temps, ces temps de la fin qui sont difficiles, c'est de rebâtir une Église vivante, heureuse et soumise au Saint-Esprit par le Seigneur Jésus. Et on peut penser aussi, c'est pour ça que j'ai amené ces réflexions, que Dieu a besoin de vases comme Joseph pour accepter ce ministère qu'il nous propose d'être utile pour son peuple. Et il nous est dit dans Ézéchiel 22, 30, « Je cherche un homme parmi eux qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. » Et Dieu cherche, on connaît ce verset, « Cherche des hommes et des femmes, nous, qui nous tenons à la brèche aussi, qui intercédons, qui ayons cet esprit de Joseph de vouloir être utile pour ramener tous ceux qui sont loin de Dieu, aussi bien dans l'Église qu'en dehors de l'Église. » Alors, le prix d'un tel ministère pour nous aussi, ce ne sera pas le prix aussi sévère que celui de Joseph, mais c'est de la même réalité spirituelle, eh bien, c'est que Joseph est passé à travers tout cela, et il ne connaissait pas le pourquoi de tout cela. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Il était jeune, dans une angoisse terrible de ses épreuves. Il rendait grâce à Dieu toujours, mais il n'avait pas connaissance non plus de toutes les gloires qui seraient suivies. Il était dans les épreuves, dans l'angoisse, il n'y avait que ça qui était là pour ce garçon. Et il a tout enduré. Il a tout enduré dans une solitude totale. Et si la croix signifie une chose plus qu'une autre, c'est là où on le ressent le plus, la solitude absolue de l'âme, la croix, où personne ne peut aller avec nous dans la compréhension. Et le Seigneur nous fait passer par ce chemin de la croix. On l'a vu tout à l'heure, et on voit que le Seigneur, quand il donne sa parole, il la donne complète, il veut nous demander à nous, dans notre vie, d'accepter le chemin qu'il nous proposera dans beaucoup d'épreuves, et nous en connaissons beaucoup aussi dans notre Église, en criant à Dieu, mais en acceptant les épreuves qu'il nous envoie comme étant un moyen pour qu'on puisse vraiment mourir à nous-mêmes, comme on l'a vu ce matin, afin de recevoir la vie du Seigneur par le Saint-Esprit ressuscité, glorifié de Jésus. Et c'est cela aussi l'exemple que nous donne Joseph. Et quand il dit « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous préserver la vie », il m'a envoyé devant vous. Devant vous, ça veut dire avant vous. Il veut aussi nous envoyer, pour nous qui avons la connaissance du Seigneur, nous le laissions approfondir sa connaissance dans nos vies par les épreuves qu'il permet. Oui, c'est vrai. Mais rappelons-nous, on l'a dit dans la Sainte Cène, il est toujours là. Il veille sur nous au ciel, comme il était avec Joseph, pour que puisse se servir de nous pour ouvrir la voie aux autres. C'est ça l'histoire profonde de Joseph, la profonde signification, ce qui s'est fait d'ailleurs. Alors, ce sera souvent un chemin solitaire, on en connaît, soit en personne, soit dans des petits groupes, et nous sommes un petit groupe, bien sûr, c'est l'Église, c'est le chemin de la croix. Pour qu'à travers ce chemin, nous puissions apporter aux autres la vie du Seigneur Jésus, le pain de vie, qu'il nous a placé là, si nous acceptons ce chemin, il est différent pour chacun, bien sûr, dans les épreuves qu'il envoie. Et puis, dans notre Église, il nous montrera ce chemin aussi, si nous voulons l'accepter. Et alors, soyons sûrs aussi qu'un temps viendra où Dieu, nous ayant façonnés comme il l'entend, à travers la croix, qui est ce chemin solitaire, nous dit la parole, nous façonner comme il le veut, il donnera aussi beaucoup de fruits spirituels, beaucoup d'âmes qui viendront à Christ, beaucoup d'âmes qui grandiront en Christ aussi. Et alors, nous pourrons, quand nous le reverrons, dire... Seigneur, merci de nous avoir fait passer par ces chemins si douloureux, parce qu'ils conduisaient à ta gloire. Voilà quelques réflexions qui m'ont été apportées par la vie de Joseph.
Seigneur, nous voulons te remercier de nous avoir conservé dans ta parole cet exemple, ce modèle de vie, de marche qui nous enseigne, Seigneur. Merci de l'avoir replacé devant nos yeux aujourd'hui, ce que tu voudrais voir dans notre vie, en acceptation de tes plans, de tes chemins. Seigneur, tu veux, à travers les épreuves, à travers les difficultés, produire la vie en abondance. Oui, Seigneur, merci pour tes plans, pour tes desseins qui sont parfaits. Et merci de garder ta parole, Seigneur, dans nos cœurs, que nous puissions pas simplement la comprendre, mais la vivre. Merci de raccompagner chacun, Seigneur, et de conduire cette semaine, que nous puissions marcher avec toi, Seigneur, jour après jour. Amen.